Projet de valorisation de la recherche en lettres, arts, sciences humaines et sociales. Nous recevons pour ce podcast le professeur Marion Lemoine qui va nous parler de lui, de ses travaux actuels et aussi de la place de la recherche, des recherches en sciences humaines et sociales dans ce grand monde-là de la recherche. Je suis Heidi Kwame. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît?
Je m'appelle Marion Lemoine, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université des Mauves, à la faculté des lettres et des sciences humaines de cette université et au sein du laboratoire FRED, éducation et diversité en espace francophone. Je suis responsable du master sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Limoges. J'étais dans une première vie professeur de collège en zone sensible, professeur d'histoire et de géographie dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Et si je l'indique, c'est parce que c'est dans cette situation professionnelle que j'ai rencontré des élèves qui étaient aux marges de l'école, aux marges de la classe, des élèves qu'on dit aujourd'hui décrocheurs. Ces situations me posaient questions, me posaient problèmes et j'ai donc commencé à travailler un peu différemment avec eux, à m'adapter à certaines des contraintes qui étaient posées par leur emploi du temps, qui étaient revisitées. Par exemple, ils allaient en stage, par exemple, ils étaient pris en compte de manière différente des autres élèves. Et j'ai initié un certain nombre de pratiques et au bout d'un certain temps, on m'a proposé de partager ça avec des collègues, de former des collègues qui étaient eux-mêmes en difficulté face à ces élèves en difficulté ou face à ces élèves difficiles. Et moi, je pensais que ce que j'arrivais à faire en analysant ma pratique et en innovant sur certains points, c'était insuffisant pour pouvoir le proposer à d'autres. Donc j'ai décidé de reprendre des études en sciences de l'éducation à l'Université de Lille afin d'en savoir plus sur les apports théoriques, pouvoir étayer davantage ma pratique et pouvoir accompagner des collègues sur ces questions et sur ces enjeux. Cette reprise d'études en DEA s'est poursuivie par une thèse. Je m'intéressais aux itinéraires des collégiens décrocheurs et j'ai fait une thèse sur les effets décrocheurs sur les pratiques des acteurs dans l'école et autour de l'école et sur les fonctionnements même des établissements scolaires à l'échelle de 4 établissements, de 4 collèges. Parce qu'en réalité, je m'étais rendu compte à relever des données que, à la fois sur des parcours singuliers d'élèves, mais aussi de manière plus répétée par des cumuls de situations qui étaient mises au travail, bien les établissements et les acteurs de ces établissements ne travaillaient pas toujours de la même manière et apprenez des expériences pour pouvoir travailler autrement, parfois même mieux anticiper des signes avant-coureurs du décrochage et éviter que les élèves ne décrochent. Donc cette thèse sur les effets décrocheurs, ça m'a permis à la fois de voir que les établissements et les personnels des établissements pouvaient s'ouvrir à d'autres acteurs, que ça pouvait créer des dynamiques à l'échelle de ces établissements et des territoires environnants, et puis que ça, avant qu'on en parle, développer des alliances éducatives, avant que ça soit théorisé, qui permet véritablement de faire que dans certains établissements, il y avait beaucoup moins de décrochage, alors qu'un certain nombre de critères objectivés de l'institution disaient que pourtant les publics n'avaient pas fortement évolué. Donc ça voulait dire que les acteurs se mobilisaient différemment parce qu'ils étaient instruits d'un certain nombre de savoirs d'expérience qui leur permettaient de travailler un peu différemment et de prévenir certaines situations. Ce travail de thèse m'a amené à m'intéresser aux situations qui sont aux marges des institutions scolaires, éducatives, familiales, sociales, et donc par la suite à poursuivre d'autres travaux au-delà des décrocheurs concernant les exclus, les élèves exclus par conseil de discipline, et donc aussi les alternatives qui étaient mises en œuvre dans l'école ou autour de l'école pour éviter les exclusions, mais aussi s'intéresser aux situations d'élèves qui étaient à l'école avec des troubles ou des handicaps qui étaient diagnostiqués ou qui ne l'étaient pas encore, qui faisaient l'objet de dispositifs et d'aménagements ou qui ne faisaient pas encore l'objet de ces dispositifs pour voir à chaque fois comment dans les établissements les gens s'en emparaient. Alors j'ai démarré ça avant qu'on commence à parler d'inclusion et je l'ai poursuivi au titre de l'inclusion, mais je m'intéresse moins à l'inclusion qu'aux dynamiques inclusives, c'est-à-dire à tous les éléments qui concourent à produire des effets et des perspectives inclusives dans le sens où ça va générer d'autres manières de faire dans la durée au bénéfice de l'élève A ou B, mais aussi au bénéfice de tous les élèves qui potentiellement peuvent présenter des troubles, des difficultés ou des situations de handicap. Donc véritablement, en essayant de regarder comment, par des choix divers et variés, par des gestes, des attitudes ou des pratiques, par des aménagements, on compense et on rend accessible. Enfin, sur la base de commandes publiques, avec plusieurs collègues de notre laboratoire, on a commencé à s'intéresser aussi, non pas seulement aux élèves, mais aux enfants placés, aux enfants qui ont été repérés comme devant être placés sous la protection de l'enfance, particulièrement dans le cas de placement dans des institutions ou des familles, des assistants familiaux, parce que la situation au sein de la famille d'origine n'est plus possible pendant un temps. Ce faisant, on a analysé comment le conseil départemental et différents partenaires pensent ces situations, les mettent au travail et proposent des solutions qui permettent à la fois de mettre sous protection ces enfants, mais aussi de poursuivre autrement le parcours éducatif et scolaire de ces jeunes gens. Et on s'est aperçu notamment, pour relier à ce que je disais tout à l'heure, que par exemple, on a plutôt tendance à pointer ce qui va mal ou ce qui conduit à des situations difficiles pour ces jeunes gens, et on a moins tendance à pointer par ailleurs les ressources qu'ils peuvent avoir et qui peuvent leur permettre, y compris de construire des parcours de réussite dans le cadre de leur propre cheminement. Et ça veut dire qu'ils sont souvent tenus et reconnus à travers les difficultés qu'ils rencontrent, et qui sont nombreuses, mais en moins en considération leur potentialité, leurs ressources. Et ça se traduit par exemple par une assez faible capacité à développer des discours d'ambition scolaire et des pratiques d'ambition scolaire pour les jeunes gens. C'est-à-dire que très concrètement, ils vont moins aller vers le post-bac, ils vont moins aller même jusqu'au bac que les autres, alors que pourtant, ils peuvent avoir les mêmes potentialités, voire des potentialités plus fortes encore. Tout ça pour indiquer qu'en réalité, on s'intéresse bien sûr, et je m'intéresse bien sûr à des itinéraires, à des parcours singuliers, mais en n'oubliant pas que des collectifs d'acteurs, j'appelle acteurs, des personnes qui sont investies et qui ne subissent pas les situations, mais contribuent à les construire et à faire évoluer le monde au sein duquel ils sont engagés, au sein de configurations, c'est-à-dire en ayant une influence y compris sur les contextes dans lesquels ils agissent, les contextes économiques, sociaux, politiques. Donc, à l'échelle de ces acteurs, on regarde un certain nombre de choses. Et dans ces acteurs, il y a aussi les publics eux-mêmes, les bénéficiaires, les enfants, les élèves, les parents. Et on regarde ça enfin, y compris à l'échelle des politiques publiques territorialisées qui visent, en matière éducative, notamment à s'intéresser aux situations de vulnérabilité sociale, économique ou scolaire. À ce titre, au sein de mon laboratoire, on a un certain nombre de chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, masterants, à être investis auprès de différentes équipes qui se sont engagées dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de cité éducative. Alors, il y en a plusieurs sur le territoire, il y en a 200 en France, et il y en a une notamment à Beaubreuil, dans le quartier Beaubreuil, qui est un quartier qui relève de la politique de la ville. Bien, il y a un programme de cité éducative qui est mis en œuvre, dont l'objectif est d'essayer de rendre plus fluide les parcours des jeunes gens de 0 à 25 ans et de renforcer les conditions de la réussite en faisant en sorte que les professionnels de tous les mondes traversés par les enfants et tous les autres acteurs, y compris les familles, soient plus facilement mis en relation, travaillent davantage ensemble, se définissent des programmes et des objectifs communs dans le but de travailler davantage anticipé, plus fluide et dans la durée à ce que les conditions de réussite des jeunes gens soient optimisées. Donc dans le cadre de cette cité éducative de Beaubreuil, on a la possibilité d'accompagner non seulement les pilotes, de les aider, pilotes de l'éducation nationale, de la municipalité et de la préfecture, et copilote des associations notamment. On essaie de les aider à travailler ensemble, à dégager des objectifs communs, à mettre en œuvre un certain nombre de choses. On n'est pas là de manière surplombante pour dire ce qu'il faut faire et comment il faudrait le faire. On est là plutôt pour éclairer un certain nombre de choix, recueillir des données en faisant des observations, en faisant des entretiens, des observations de manière ethnographique, c'est-à-dire dans la durée, en mettant ensuite à disposition ces observations parce qu'on formalise la réalité, on la met en écriture alors que les gens ne font que la vivre, mais la vivre c'est déjà beaucoup, mais ils n'ont pas forcément le temps de s'arrêter sur ce qu'ils font, ou on va leur proposer de se mettre en capacité de réfléchir à ce qu'ils font avec eux et on les accompagne pour ça. On va croiser ça avec des entretiens, on va croiser ça avec des recueils d'autres données comme des questionnaires, etc. Et puis périodiquement, on va venir éclairer avec des points d'analyse, avec des lectures qui viennent de la littérature scientifique, dans l'objectif de nourrir leur réflexion et d'alimenter les collectifs qui commencent à former pour développer une culture commune de territoire qui leur permette de prendre des décisions de manière peut-être plus éclairée et en prenant davantage conscience des différentes bifurcations, des différents choix qu'ils pourraient faire et de leurs conséquences. Notre travail s'appuie sur une idée simple. Nous considérons que les acteurs du quotidien sont des experts de leur quotidien, mais sont des experts qui souvent s'ignorent. Ils ignorent leur propre expertise, où ils la minorent, où on la minore pour eux. Ensuite, ils ignorent très largement l'expertise des gens avec lesquels ils travaillent ou qu'ils rencontrent. Et en fait, par les dispositifs que nous mettons en œuvre, eh bien, on vise non seulement à ce qu'ils puissent dire leurs expertises, on les aide à coucher d'eux-mêmes dans leur savoir pratique, leur savoir d'expérience. Et dans un deuxième temps, on va constituer, y compris des recueils de données qui vont devenir des connaissances et des savoirs qu'on va faire circuler entre les acteurs. Cette circulation de savoir entre les acteurs devient aussi une ressource pour agir. Et donc, dans ce que nous opérons des analyses non seulement des savoirs d'action, des savoirs pour l'action, des savoirs en action, mais aussi de savoirs qui relèvent pas de l'action, mais plus de l'intelligibilité et de la compréhension à la fois des enjeux, mais aussi des objectifs et des potentialités qui se dégagent. En ce sens, on essaie, par cet accompagnement par la recherche, de contribuer socialement, au sens social et politique, au sens de police, on essaie de contribuer à l'élaboration de la vie en société. Et donc, on assume cette utilité sociale de la recherche. Alors, historien de formation, j'ai choisi de me tourner vers les sciences de l'éducation quand j'ai repris mes études, parce que ce qui m'intéressait, c'était cette capacité à, j'allais dire, faciliter, à organiser le dialogue entre différentes disciplines, à l'échelle d'une discipline scientifique, les sciences de l'éducation, les apports de la philosophie, de l'économie, de la sociologie, pourquoi pas de la géographie ou l'histoire, ne sont pas concurrentiels. Ces apports sont mis au travail et dialoguent entre eux. Évidemment, les chercheurs en sciences de l'éducation ont des entrées disciplinaires privilégiées, mais ce n'est pas à l'exclusion d'autres entrées disciplinaires. On organise ce dialogue disciplinaire et on essaie d'éclairer un même objet sous des approches qui sont différenciées. Et d'une certaine manière, en son sens même, les sciences de l'éducation, c'est une possibilité d'envisager l'interdisciplinarité. Alors, un des grands chercheurs en sciences de l'éducation qui s'appelle Jacques Arduano parle, lui, de multiréférentialité. C'est un peu complexe, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais ça dit bien qu'il n'y a pas d'exclusive et il n'y a pas non plus de concurrence des savoirs et des disciplines. C'est en faisant fonctionner ensemble ces disciplines qu'on développe la discipline des sciences de l'éducation et de la formation aujourd'hui. La deuxième chose que je voulais rajouter, c'est que notre laboratoire éducation et diversité en espace francophone, FRED, il assume pleinement cette dimension des espaces francophones. Dans ce laboratoire, je l'assume particulièrement parce que je considère aller voir ailleurs qui sont les gens et ce qu'ils font. C'est non seulement un moyen de s'ouvrir à l'autre, comprendre dans des systèmes éducatifs et scolaires qui sont de même inspiration, par exemple l'inspiration du système éducatif et scolaire à la française, en France, en Hexagone et dans les territoires d'outre-mer, mais aussi en Afrique, en Asie ou dans certains autres territoires. Par exemple, si on prend l'échelle des lycées français à l'étranger, ben on va trouver des choses qui sont à la fois très approchantes et des choses qui sont aussi très différentes parce que le cadre culturel, les normes, les manières d'être au monde sont distinctes. Ben, en faisant cela, on voyage, on rencontre l'autre, on se documente sur des variations et des contrastes, mais de la même manière, ou de manière consécutive plutôt, quand on revient après ce détour anthropologique, eh bien on comprend mieux aussi qui nous sommes et ce que nous faisons à la lumière de ce qu'on aura découvert ailleurs. Et donc ce travail ethnographique du lointain, il vient aussi enrichir le travail ethnographique du proche et de l'ordinaire que j'essaie d'accomplir dans mes travaux de recherche.
C'est en ces thèmes que s'achève ce portrait de Monsieur Marion Lemoine. Merci vraiment à vous d'avoir pris part à ce projet, merci pour votre collaboration et vive la recherche en lettres A, sciences humaines et sociales. Merci à vous.